Savons-nous réellement ce qu'est une jungle ?
Alors le terme vulgarisé en Occident est le terme qui a pris son sens au cours du XXe siècle. C'est celui de la forêt tropicale telle qu'on l'imagine. Mais initialement, le mot jungala, qui est le mot sanskrit, désigne un milieu sauvage, sec, qui peut être désertique ou de forêt sèche de la péninsule indienne. Et puis le mot change de sens petit à petit en Inde pour se désigner aussi ces forêts humides. Et puis en Occident, c'est le livre de Rudyard Kipling, le livre de la jungle, qui popularise ce mot qui nous est connu avec son sens actuel. Mais alors, cette origine du mot jungala nous permet de balayer un peu tous ces milieux de la péninsule indienne dans l'exposition, avec un parcours divisé en quatre écosystèmes finalement: le milieu aride, ce qu'on appelle le milieu des lisières, la forêt humide proprement dite, hein, la forêt dense, et puis on termine par au sommet de l'Himalaya qui vont clôturer le parcours. Alors, je veux vous en dire un petit peu plus sur ces différents parcours. Justement, on pourrait dire qu'il y a en quelque sorte deux parcours, et puis à l'intérieur celui du muséum, finalement cinq parcours. Mais je les développerai après quand nous circulerons. Alors, premier parcours, première exposition dans le muséum proprement dit, avec des collections de spécimens naturalisés du muséum. Et puis une deuxième étape à partir de fin avril au jardin botanique, qui présentera ce qu'on appelait le sentier botanique en Inde, dans les espaces extérieurs, dans le jardin proprement dit, et dans les deux espaces, le jardin historique qui est au jardin public et le nouveau jardin de la Bastide. Donc des parcours qui vont baliser des plantes existant dans ces collections, plantes originaires d'Inde ou particulièrement cultivées en Inde, qui ont un sens particulier, sens symbolique, décoratif, mais aussi usage alimentaire ou médicinal.
Quatre milieux naturels sont présentés.
Oui, donc quatre milieux naturels, le milieu aride, le milieu des lisières, entre ce milieu et celui de la forêt tropicale proprement dite, et puis l'Himalaya. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que nous avons en fait plusieurs parcours dans le parcours. Donc ça, c'est ces milieux, c'est vraiment le parcours général où sont mis en scène les collections. Mais nous avons aussi voulu réaliser un parcours inclusif, sensoriel, que l'on va découvrir à l'intérieur du parcours. Donc nous sommes ici dans le milieu aride, et ce premier parcours sensoriel commence avec un certain nombre de spécimens qui vont être à toucher et à découvrir de cette manière. Un petit peu plus loin dans le parcours, on verra un parcours à sentir les odeurs, hein, que l'on va découvrir dans la jungle, puis un parcours à entendre. Donc véritablement une immersion de plusieurs manières. C'est le deuxième parcours dans le parcours. Le troisième parcours dans le parcours, eh bien, c'est le parcours littéraire. C'est celui qui va permettre de suivre les espèces qui sont les personnages du livre de la jungle de Kipling. Vous le voyez ici avec les premiers cartels qui sont ces petits ronds dans le milieu aride. On a le premier sur le loup. On va découvrir ensuite le chacal, la mangouste. Ce sont ces personnages, donc Tabaki le chacal, Akela le loup ou la mangouste Rikiti Kitavi, qui sont ces personnages de Kipling. Et on a à chaque fois une petite citation de l'ouvrage qui permettent de suivre ce parcours littéraire. Donc on était au troisième parcours. Donc le quatrième, ce que vous voyez commencer ici, c'est le parcours de l'entomologiste. L'entomologiste, c'est le scientifique qui s'intéresse aux insectes, et on va pouvoir les voir dans ces vitrines de plus près, et avec des éléments de complément d'informations, de caractéristiques tout à fait particulières de certains de ces insectes, vous voyez, papillons, coléoptères, que l'on va découvrir dans ces vitrines. Donc plusieurs approches, plusieurs manières de rentrer dans cette ambiance et dans ce propos sur la jungle indienne. Dans le milieu aride, comme nous sommes à la radio, on va décrire un petit peu ce que l'on va voir. On a une ambiance très, très très lumineuse, très, très claire. On est dans une zone où le soleil tape, où il fait très chaud, et on y voit un certain nombre d'espèces au pelage ou au plumage de couleur claire pour renvoyer les rayons du soleil. Certaines de ces espèces ont une vie plutôt crépusculaire ou nocturne pour se protéger de la chaleur. On y voit en élément de décor, ces spécimens sont mis en scène sur une fresque qui évoque ce paysage aride. Alors, pour rentrer dans quelques exemples de ce qui est présenté, vous allez voir par exemple le vautour au-dessus de notre tête, ce vautour en vol qui est également évoqué par l'une des empreintes à toucher qui se trouve dans le parcours tactile. On va pouvoir découvrir aussi les espèces qui sont présentées sous forme d'animaux naturalisés grâce à ce grand écran. On voit de très belles photos de ces espèces avec les milieux présentés dans leur milieu naturel. Pour véritablement les percevoir davantage, on a le naja, le cobra des Indes qui apparaît sur cette image-ci. Vous allez pouvoir aussi en savoir plus sur les spécimens qui sont présentés dans l'espace. Ils sont identifiés par, comme d'habitude au muséum, par leur nom scientifique latin, par le nom courant, le nom commun en français lorsqu'il existe, le nom anglais, le nom en espagnol, mais on va pouvoir en savoir plus en prenant ce qu'on appelle ces fiches espèces, ces sortes de cartes d'identité ou de biographie des espèces, où on va pouvoir les décrire, indiquer quelles sont quelques-unes des caractéristiques remarquables que l'on va pouvoir voir ici. Je prends la fiche du singe Rhésus qui est en face de nous, par exemple, particulièrement connue par les expérimentations qui ont été réalisées autrefois pour identifier les groupes sanguins que nous connaissons. Et puis figurent bien sûr dans chacune de ces fiches des éléments sur le statut des populations et les menaces qui pèsent sur l'espèce, et lorsqu'il y en a, les mesures de protection de l'espèce en question, ainsi que le statut de l'espèce dans la liste de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Une seconde partie dans l'exposition.
Alors, nous sommes ici dans les lisières de forêts tropicales. Donc, on est dans des zones carrefour en fait de la diversité, zone de transition entre ces deux milieux, le milieu aride dont nous venons et l'entrée vers la forêt tropicale. Vous voyez que esthétiquement, le décor est aussi marque cette transition, avec à nouveau une fresque qui fait la transition avec ce milieu aride, mais aussi des éléments de décor qui protègent les vitrines. Qui nous évoque la végétation qui va nous amener vers la forêt. Alors, quelques espèces, tout à l'heure, nous avons vu des très connues. Il y en a aussi quelques-unes qui sont très connues et d'autres beaucoup moins. Par exemple, en face de nous, une grande antilope dépourvue de cornes, parce que c'est une femelle, et dans cette espèce, seuls les mâles possèdent des cornes. Donc, c'est une antilope nigo, qui est une espèce caractéristique de cette zone indienne. Et ce spécimen en particulier me permet de vous indiquer que pratiquement la moitié des spécimens présentés dans cette exposition sont des nouvelles acquisitions du musée. Alors, quand je dis nouvelles, des acquisitions des 15 dernières années environ. Les autres sont les spécimens historiques des collections. Et donc, cette antilope, ce spécimen-là, donc, a été naturalisé tout à fait récemment, sur la fin de l'année 2022, pour cette exposition, et le spécimen est en fait un animal qui vivait aux eaux de Pessac, qui, lorsqu'il est mort, a pu être récupéré par le musée pour être naturalisé. Et dans nos acquisitions récentes, la plupart des mammifères ou oiseaux en particulier proviennent de zoos, des animaux qui sont accidentés ou qui sont malades et qui meurent, et que nous pouvons pouvons récupérer et faire en quelque sorte revivre dans les collections et les expositions du musée. Alors on va voir de l'autre côté, on voit qu'on est déjà un peu plus dans la forêt, des espèces beaucoup plus connues, même si on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Vous voyez ici un magnifique paon qui fait la roue, donc un mâle, hein, et la femelle, elle est de couleur beaucoup plus terne à côté, dans les brins. Ça nous permet de aussi donner des informations biologiques ou comportementales sur les différentes espèces. Et là, on voit du point de vue, évidemment, morphologique, anatomique, le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence particulièrement spectaculaire entre les mâles et les femelles de cette espèce. Le paon qui est aujourd'hui largement acclimaté dans les parcs en Europe, eh bien, est une espèce qui est indienne à l'origine. Alors, les spécimens présentés sont généralement des animaux naturalisés. Vous voyez ici un crâne. Donc c'est un crâne d'éléphant d'Asie. Alors la mascotte du Muséum de Bordeaux, Miss Fanny, est elle aussi un éléphant d'Asie, mais il nous était vraiment pas possible de l'acheminer vers le niveau moins 1 des expositions temporaires. Donc elle continue d'accueillir le public à sa place, mais nous avons voulu manifester l'importance de cette espèce de l'éléphant d'Asie en présentant ce crâne des collections historiques ici dans cet espace de la lisière.
Toxicité et mimétisme, de quoi s'agit-il ?
Alors, dans la boîte d'insectes qui est présentée, vous remarquez ici deux papillons qui se ressemblent un peu. Celui qui est à gauche correspond à une espèce dont la chenille se nourrit sans dommage d'espèces végétales toxiques. Et le papillon devient lui-même toxique pour les oiseaux, par exemple, enfin les autres espèces qui pourraient les consommer. Et en général, ces espèces toxiques ont des couleurs très vives, qui permettent finalement d'alerter le potentiel prédateur et leur permettent de ne pas être dévorés. Donc ça, c'est le papillon toxique qui se protège par ses couleurs. Celui d'à côté, qui a des couleurs assez voisines, un motif assez voisin, mais lui, en réalité, il n'est pas toxique, et donc plus vulnérable. Mais en fait, il mime. L'espèce mime les couleurs de l'autre. Et donc les prédateurs, eh bien, s'y laissent prendre et le laissent tranquille.
Nouvelle étape de l'exposition au cœur de la forêt tropicale humide.
Vous voyez que l'ambiance y est tout à fait différente. La lumière n'est plus la lumière vive que nous avions dans les premiers espaces. On voit que c'est maintenu dans une sorte de pénombre. Ceci pour évoquer le fait que ces milieux forestiers sont souvent très sombres. On a plusieurs strates finalement végétales avec une canopée très très haute et très très dense qui cache les rayons du soleil finalement. Vous voyez qu'on y a une ambiance sonore également. Hein, on entend ce bruitage qui nous plonge dans ce milieu particulier de la forêt. Puis vous voyez que nous sommes arrivés ici face à ce dispositif qui est celui qui va nous permettre de sentir. Donc on a ces petites poires ici. On va mettre son nez près du diffuseur là et on va pouvoir sentir l'une des odeurs de la caractéristique de la forêt. Et avec ici le petit volet à ouvrir qui nous permet de nous aider à identifier cette odeur. Alors, dans ces éléments, ici sur la forêt tropicale humide, eh bien, on va découvrir un certain nombre d'espèces qui sont parmi les plus emblématiques de cette jungle indienne. Nous sommes ici face à un tigre qui fait partie eh bien, des espèces emblématiques du livre de la jungle, hein, c'est Shere Khan, mais c'est aussi une espèce, c'est un très grand prédateur, c'est un des plus grands, sans doute le plus grand félin actuel, et qui est très, très lourdement menacé d'une part par la chasse, prélever des éléments de son anatomie qu'on imagine d'usage dans la pharmacopée asiatique, et puis un animal qui est fortement menacé aussi du fait du fractionnement de son habitat. On va voir d'autres espèces particulières, avec ici, vous voyez, ces deux ours. Alors, il s'agit donc d'ours qui sont l'espèce ours du Tibet ou ours à collier. On les a présentés ici parce que, ils pourraient être évoqués par Balou du livre de la jungle, même si Balou, c'était probablement une autre espèce d'ours qui se trouve aussi dans ce milieu de la péninsule indienne, qui est l'ours lipu. Ces deux ours, eux, viennent de nos collections récemment acquises, et donc sont des ours décédés dans des zoos et que nous avons fait naturaliser. On a ici un couple, un mâle et une femelle, qui étaient particulièrement intéressants à mettre en scène. On va se tourner vers la vitrine qui fait face à cet espace. On va y découvrir la panthère noire Bagheera du livre de la jungle. Alors un petit mot sur cette panthère noire ou léopard. En effet, ce n'est pas une espèce particulière, même pas une sous-espèce. C'est une variété mélanique, donc c'est une forme individuelle. On a en effet un assez gros pourcentage de ces léopards mélaniques en Inde, mais il peut y en avoir aussi de temps en temps en Afrique également. Voilà, et c'était l'occasion de donner cette précision grâce aux fiches espèces que l'on va trouver. Oui, on y voit aussi le cobra, avec un petit extrait de la nouvelle Rikiti Kitavi, qui est la petite mangouste qui va se battre contre le cobra, cette espèce de serpent particulièrement emblématique aussi de cette région de l'Inde. Un mot d'un autre crâne que celui de l'éléphant de tout à l'heure. Nous avons présenté ici le rhinocéros de Java. Alors là, comme l'autre crâne, il s'agit de nos collections anciennes, hein, historiques. Ce rhinocéros a une seule corne, donc comme d'autres rhinocéros de la péninsule indienne, et à la différence des rhinocéros blancs ou rhinocéros noirs qui sont bicornes en Afrique, ils sont extrêmement menacés, sont parmi les plus menacés du monde, là vraiment en raison de la pression de la chasse et le trafic de leurs cornes, supposé avoir des effets aphrodisiaques, et donc vraiment l'ensemble des rhinocéros de toutes les espèces sont extrêmement menacés à cause de cette prédation pour un usage humain absurde. Peut-être que je profite pour vous dire un autre mot de la construction de cette exposition. Nous sommes, je crois, au bon endroit pour ça. Vous voyez ces éléments donc de décor qui nous évoquent la végétation. Alors l'exposition au cœur de la jungle indienne, elle est en cohérence avec nos préoccupations sur la transition écologique. Entièrement réalisée en interne, avec les collections qui sont entièrement les collections du Muséum de Bordeaux, et avec des éléments de décor qui sont du réemploi ou du recyclage. La structure des éléments de vitrine reprend, en les ayant modifiés, réadaptés, des éléments de structure de l'exposition précédente qui était dans cette salle qui s'intitulait Collectionner la nature. Et ces éléments de décor ici qui évoquent la végétation, c'est du recyclage de décors réalisés pour le Muséum National à Paris, que nous avions récupéré avec une grosse anticipation, puisque c'est une exposition qui s'est terminée en 2016, et que nous sommes allés chercher à Paris en se disant « c'est très beau, le Muséum de Paris le propose au Muséum en région plutôt que de les jeter à la benne ». Et donc nous sommes allés chercher en se disant « si ça, un jour ça pourra nous servir ». Donc c'est une problématique de stockage pendant le temps où on ne s'en sert pas encore. C'est un gros travail pour l'équipe technique du musée et l'équipe de conception qui a dû faire un vrai travail de Tetris pour arriver à remettre les choses en place, les réadapter, les hauteurs sont évidemment pas les mêmes, et faire quelque chose qui a vraiment cet effet très spectaculaire et encore une fois en cohérence avec nos valeurs concernant les enjeux environnementaux qui sont mis en application par les équipes ici.
Alors, qui pousse ce cri ?
Donc, Donc là, on a le cri du Calao bicorne que vous voyez par cette baie entre les grandes feuilles. C'est l'espèce qui se trouve ici derrière. On ne va pas tout dévoiler. Il y a trois cris à identifier dans cet espace.
Là, on rentre dans l'espace intitulé Himalaya.
Voilà, on va être dans les contreforts de l'Himalaya. Au sortir de cette jungle, on va avoir des forêts de conifères qui vont succéder à cette forêt tropicale. Et puis, on va essayer de découvrir ce milieu avec ces deux espaces qui vont nous montrer le premier, un peu la faune qui est dans les zones basses ou moyennes de la montagne. Et puis, le dernier espace où on est sur les faunes des plus hauts sommets. Alors on peut en décrire quelques-uns si vous voulez. Les enfants vont adorer, je pense, le pandarou qui est souvent une des vedettes des collections. Mais on va voir aussi des espèces plus inattendues. Vous voyez là à nouveau un exemple de dimorphisme sexuel avec cette espèce présentée par la femelle et le mâle, le tragopan de Teminque, et on a un peu plus loin le tragopan saptir qui va aussi présenter ce dimorphisme très important avec un mâle très coloré, comme c'est le cas habituel chez les oiseaux, alors que la femelle est beaucoup plus discrète. On va avoir ces deux jolis oiseaux, les Léotrix jaunes, qui sont des oiseaux originaires en effet de cette zone de l'Himalaya, mais qui sont des espèces qui se sont trouvées introduites dans nos régions, et on les trouve parfois dans le sud-ouest, et ceux-là nous ont été apportés par un particulier qui les a trouvés au Pays Basque. Ici, dans ces plus hauts sommets, on va découvrir la panthère des neiges, qui a été mise à l'honneur par l'écrivain Sylvain Tesson, le photographe Vincent Munier, avec leurs livres et films surtout. Nous avons ici une très jeune, un bébé panthère des neiges qui nous vient du zoo de Douai-la-Fontaine près d'Angers, qui a été naturalisé et qui nous évoque cette espèce mieux connue maintenant, et de félin assez particulier, qui vit dans ces plus hauts sommets de l'Himalaya, qui, comme vous le savez, atteignent plus de 8000 mètres d'altitude avec l'Everest et d'autres sommets indiens. Et puis, avant de quitter l'espace, je vous fais remarquer deux capridés particuliers, peut-être peu connus des Européens, qui sont cet urial et le tar de l'Himalaya, donc qui présente une fourrure assez spectaculaire, et qui sont ces animaux qui vivent dans les sommets les plus escarpés. Voilà, et nous sortons de l'exposition. On a ces hublots sur le mur qui nous évoquent quelques vues de ces sommets himalayens, et puis on va retraverser le rideau final. On va terminer sur ces vues de l'Himalaya, qui sont cette zone quand même où a eu la rencontre des plaques tectoniques, de la plaque himalayenne avec la plaque eurasienne, il y a plus de 60 000 ans, et qui est cette zone où on peut ressentir encore par moments les mouvements tectoniques, et encore une élévation de quelques centimètres par an de ces hauts sommets.
Une exposition pour petits et grands.
Oui, je pense que chacun peut y trouver son compte. On va avoir vraiment des informations sur les milieux, des zooms sur les questions qui portent sur la biodiversité, sur l'endémisme de certaines espèces, sur la question des moussons par exemple. Mais on va pouvoir aussi, avec les jeunes enfants, suivre entièrement le parcours jalonné par les espèces mises en scène par Kipling dans le Livre de la jungle, se plonger dans l'ambiance de ces éléments de décor et ces spécimens assez étonnants à voir en vrai et de près, même si on s'en fait une idée, pour les plus emblématiques, et puis découvrir des espèces que beaucoup ne connaissaient pas du tout, je pense.